Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Service.
Bien grandir, c'est en partie une question d'hygiène de vie. Le souci d'un parent est que son enfant grandisse de façon harmonieuse et régulière. Pour les socialistes, il est important de respecter le plan de suivi hygiénique des nourrissons proposé par le pédiatre. Comment s'y prendre correctement? Docteur Lysia Moukar, pédiatre à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Yaoundé, sera là tout à l'heure en ligne pour répondre à vos questions. Maman, vous avez des questions, des préoccupations, pas seulement les mamans, nous invitons surtout les mamans à nous appeler. Ou toute autre personne, vous voulez participer, faites le 081-890-6394. Vous pouvez également nous écrire à service radio capi.net ou poster votre question sur la page Facebook du magazine au Capi Service. Docteur Lysia Moukar, bonjour.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Nous parlons aujourd'hui de l'hygiène à adopter pour la bonne croissance du nourrisson. Alors, dites-nous, docteur, quelle est cette hygiène à adopter?
Oui, les nourrissons, généralement, ce sont les tout petits, qui, dont l'âge est compris entre 2 mois et 3 ans.
Mmh.
3 ans. Alors, leur hygiène dépend des adultes qui sont responsables.
Mmh.
Il faudrait bien les laver,
mmh,
2 fois par jour au moins 2 fois par jour, avec un savon qui n'est pas très irritable, bien les essuyer et badigeonner leur corps d'une crème, généralement ce qu'on appelle une crème hypoallergénique qui ne peut pas créer des irritations.
Mmh.
Alors, pour les plus jeunes qui ne sont pas encore propres d'eux-mêmes,
mmh,
il faudrait veiller en particulier sur l'hygiène de leur région fessière. C'est-à-dire que après avoir fait des fesses, il faut bien les essuyer à l'eau propre si c'est possible, utiliser les lingettes, c'est plus approprié, et mettre une crème par-dessus pour éviter les irritations. Même en cas d'urine, après avoir uriné, surtout chez les tout-petits, il faudrait toujours les essuyer avec de l'eau propre ou une lingette qui est beaucoup plus adaptée. C'est généralement ça ce qu'il faut pour l'hygiène corporelle des enfants. Il y a aussi l'hygiène alimentaire, comme on le sait, pour éviter toutes sortes de maladies. Il faut veiller à bien laver les mains des enfants fréquemment. Nous savons que les enfants touchent un peu à tout, surtout les enfants qui savent déjà marcher à 4 pattes, qui marchent déjà, ils touchent un peu à tout. Alors la maman ou la personne qui veille sur les enfants doit veiller à nettoyer régulièrement les mains de ses enfants. Il existe sur le marché des produits, des laves-mains, alcoolisés en fait, hein, que l'on utilise sans utiliser de l'eau par la suite. Alors il est recommandé aux mamans d'avoir ce genre d'antiseptique pour nettoyer les mains des enfants de temps en temps au courant de la journée.
Mmh.
Il
ne
faut pas seulement attendre le repas ou de constater que l'enfant a les mêmes sales pour pouvoir les laver.
Alors, docteur Lysia, à certaines mamans utilisent les tiges coton pour nettoyer les oreilles des enfants. C'est bon ou pas?
Ce n'est pas recommandé d'utiliser des coussons, des tiges coton à n'importe quel moment, tous les jours, quoi. C'est seulement lorsque l'on constate qu'il y a des sécrétions au niveau des oreilles des enfants que l'on peut enlever. Sinon, ce n'est pas recommandé d'utiliser les tiges coton à chaque bain, à chaque nettoyage des enfants.
Mmh. Et au début, vous avez dit qu'il faut laver l'enfant 2 fois par jour. On est par exemple en saison sèche. Est-ce qu'il faut, il faut continuer à le faire ainsi?
Oui, la saison sèche ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laver. Il faudrait peut-être nettoyer les enfants à l'intérieur de la maison, dans une salle qui est bien chauffé avec de l'eau tiède, et là c'est bon. S'il fait trop froid le soir, bien essuyer l'enfant, mais essuyer l'enfant ne veut pas dire qu'il faut quand même utiliser suffisamment d'eau pour enlever la saleté, sinon la saleté reste sur le corps.
Alors, d'après certaines informations, le sommeil est essentiel pour le bien-être et le développement du bébé. Alors, qu'est-ce que les parents doivent faire pour faciliter leur endormissement et, afin qu'ils dorment dans de bonnes conditions?
D'abord, l'enfant a besoin d'au moins 8 heures de sommeil. Mais les nourrissons, qui sont plus jeunes, ont besoin d'au moins 10 heures de sommeil. Alors, la maman doit savoir déjà à quelle heure son enfant a l'habitude de se reposer. Généralement, c'est autour de 19 heures. La maman doit prendre soin de donner la nourriture avant cette heure-là et de créer une atmosphère qui peut permettre à l'enfant de s'endormir calmement. Il ne faut pas que l'enfant s'endorme devant la télé, qu'il ait les bruits de la télé, ça perturbe le sommeil. Il faut un endroit calme qui peut favoriser le sommeil. Et comme on le sait, bon, les non-mamans parfois ne le font pas trop, il y a des berceuses, il faut chanter des berceuses à l'enfant, il faut lui raconter une histoire, mettre vraiment l'atmosphère propice au sommeil, créer l'atmosphère propice au sommeil.
Et comment ranger par exemple la chambre pour bien endormir le bébé calmement?
La chambre doit être d'abord bien aérée, la chambre doit être très calme, il ne doit pas y avoir de bruit, le lit doit être confortable. Pour les mamans qui le peuvent, ils peuvent agrémenter la chambre de leur enfant en posant sur des lits des coussins, des nounours, et voilà. C'est comme ça que une chambre de la chambre des enfants doit vraiment ressembler à une chambre d'enfant, quoi.
Voilà, donc ce sont là les choses, les hygiènes de vie à entretenir pour que l'enfant grandisse dans de bonnes conditions. Nous invitons les mamans qui nous suivent en ce moment. Appelez-nous au 081-896-6394 pour intervenir. Vous avez des questions, des préoccupations, docteur Isia Moukar, pédiatre, est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre par rapport à l'alimentation, par exemple, de l'enfant et nourrisson et tête? Combien de fois la maman doit donner la tétée par jour?
La tétée, le lait maternel, c'est le besoin le plus naturel du nourrisson. Le nourrisson doit le prendre à volonté. Chaque fois qu'il en a besoin, la maman doit être en mesure de le lui donner. Généralement, pour les nourrissons qui se rassasient bien avec le lait maternel, ils le prennent toutes les 2 ou 3 heures. La maman, une maman qui est bien consciencieuse et qui doit donner le sein à son enfant toutes les 2 ou 3 heures du temps. Quant au biberon, ceux qui prennent le biberon, il en faut au moins 6 par jour, un repas de 6 biberons par jour, tant que la maman n'a pas encore introduit d'autres aliments.
Au moins 6 biberons par jour.
Au moins.
Bien. Nous avons un auditeur en ligne, docteur Isia, un auditeur qui nous appelle des Bandundouville. Il s'appelle Malonga. Bonjour Malonga.
Bonjour monsieur Jérémie.
Monsieur Jody Malonga.
Oh, Jody Kassama, bonjour.
Bonjour Malonga, on vous écoute.
Ok, merci. Je vais demander seulement à notre docteur invité là-bas. Puisque j'étais à l'intérieur de notre province, j'ai vu en cas de pluie, les parents souvent laissent leur bébé en pleine pluie. Alors, je suis vraiment inquiété et dans le regard vraiment trop profond. Je vous ai demandé comment est-ce que vous laissez les enfants comme ça sous la pluie. Et il y a de la boue, de la saleté. Vous me disiez que non, ça, en tout cas, ça garde la propriété à la peau de l'enfant. Est-ce que vraiment, le docteur peut nous expliquer ça très très bien? Est-ce que c'est scientifique ou bien c'est quoi?
Bien, merci. Docteur Isia.
Oui, en réalité, comme on le fait dans plusieurs centres de beauté, et on utilise de l'argile pour traiter la peau parce qu'il y a des vertus. Il y a des vertus au niveau de l'argile pour le traitement de la peau. Mais ce n'est pas recommandé d'utiliser n'importe quelle argile ou n'importe quel sable. Surtout chez des enfants qui ne peuvent pas contrôler. Ils peuvent mettre cette argile, cette boue peut passer par la bouche, par les autres doigts et créer des infections chez les enfants. Alors je demanderai à ses parents de cesser ce genre de pratique qui est très dangereux pour l'enfant. Ça peut, même si ça n'est pas très bien à la peau, à un moment donné, ça va causer beaucoup d'autres infections, les parasitoses intestinales et tout ça, les infections digestives. Ce n'est pas recommandé du tout.
Oui, laisser les enfants se laver sous la pluie.
Oui, ça c'est. c'est mauvais, c'est connu.
Oui, c'est pas bon, il peut recevoir un coup de froid.
Oui, surtout en cette période, il peut faire la grippe, il peut faire des pneumonies, toutes sortes d'infections, pulmonaires et même digestives.
Mmh. Voilà, mais le tout petit, les nourrissons, est-ce qu'il faut leur soumettre à quelques petits exercices physiques en quotidien?
Oui, bien sûr. De lui-même, ils s'en occupent. Hein. Les nourrissons ne sont pas, à moins qu'ils soient malades. Généralement, ce sont des petits qui sont très en mouvement. D'eux-mêmes, ils font leur mouvement physique. Mmh. Les mamans ont l'habitude de faire des mouvements pour, comme elles disent, pour apporter un peu du tonus aux membres de leur nourrisson, mais ce n'est pas nécessaire.
Avec un peu de marsupilami, là.
Oui, c'est ça, ce n'est pas nécessaire. La nature s'arrange toujours pour rendre les nourrissons, apporter le tonus dans les muscles de façon la plus naturelle possible. Ce n'est pas nécessaire.
Ce n'est pas nécessaire de se mettre le bébé à des tels exercices. Hein.
Non, pas du tout.
Alors, par exemple, si l'enfant vit avec un père qui souvent a l'habitude de fumer, alors est-ce qu'il y a des dangers pour le bébé?
Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle le tabagisme passif. Hein. C'est-à-dire que l'enfant, et c'est même ce qui est plus dangereux par rapport au tabagisme actif, parce que la personne inhale passivement la fumée qui est émise. Donc il faut éviter ce genre de pratique devant les enfants.
Voilà. Un autre auditeur nous appelle de Kinshasa, et c'est Pichou. Vous voulez également participer? Nous invitons les mamans à nous appeler au 081-890-63-94.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des réponses et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un geste de culture et beaucoup de musique. 13h à 15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Quelle hygiène adopter pour la bonne croissance de votre bébé ou nourrisson? Pitou, bonjour.
Monsieur.
Vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Oui, j'avais un petit souci hier à poser au docteur.
Oui.
J'ai deux jeunes enfants, l'une a 3 ans et l'autre 2 ans. Et ces enfants dérangent beaucoup. Ils dérangent beaucoup vraiment. Toute la journée, elles dérangent et puis les soirs, elles ne dorment pas. Elles ne dorment pas vraiment.
Pourquoi?
Elles ne peuvent pas les... Jusqu'à 22h, elles ne veulent pas dormir. Donc, il faut les forcer à dormir. Et puis, je constate qu'ils ont quelques soucis de croissance. Elles ne grandissent pas vraiment normalement, plutôt la première. Et puis, elles ont un petit problème de poids.
Un petit problème de?
De poids. Ça veut dire qu'à 3 ans, elle n'a pas vraiment de poids.
Et les enfants ne veulent pas dormir, ils restent au salon jusqu'à 22h en train de jouer ou de pleurer?
De jouer, de déranger. Alors, en tout cas, il faut les forcer à aller pour aller dormir. Et elles partent en pleurant et ne veulent pas dormir.
Oui. Et vous dites, le premier a un poids faible?
Oui, oui, oui.
Et le deuxième?
Oui, le deuxième au moins, ça va.
Et le poids, là, c'est combien, ce poids faible?
Autour des 12-13 kilos. Nous avons une fois qu'on a trouvé un pédiatre qui nous avait prescrit un bon nombre de médicaments, mais après cela, cette situation n'était pas améliorée. Mais au moins, elle vient, elle se soucie du côté poids.
Alors, on vous garde de rester en ligne, docteur Isia.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à monsieur Pichon?
Oui, d'abord, je pense que ces enfants ont un réel problème. Je pense qu'ils nécessitent une consultation en bonne et due forme, surtout sur la personne dont le poids semble fléchir.
Mmh.
Et je pense que une consultation même en neurologie serait vraiment appropriée parce que les enfants semblent surexcités et ils n'ont pas envie de dormir. C'est comme on disait tout à l'heure, il faudrait d'abord qu'ils soient dans des conditions qui leur permettent de dormir. C'est pas les enfants généralement se dépensent trop hein, pendant la journée quand ils jouent. Mmh. Naturellement, le soir, ils sont fatigués. Après un bon bain, après une bonne alimentation, ils doivent naturellement dormir. Alors, s'ils ne le font pas, c'est que quelque part, toutes ces conditions ne sont pas remplies. C'est très bien que monsieur passe nous voir à l'hôpital. Nous allons mieux l'orienter.
Voilà, donc, monsieur Pichou, vous avez suivi, est-ce que vous êtes déjà passé, vous êtes allé voir un pédiatre?
Oui, nous sommes allés une fois voir un pédiatre. C'est ce que je dis. Alors, on avait prescrit un bon nombre de médicaments qui nous avions de nos enfants, mais après cela, ça n'a pas vraiment changé.
Ouais, ça n'a pas changé. Et les enfants mangent bien tous les jours?
Ils mangent des fois bien, quelquefois il y en a des soucis. C'est ça, voilà.
Ouais, ben voilà, puis tout, docteur Rivière vous demande de passer d'aller en consultation, passer voir encore un pédiatre, parce que la solution va arriver certainement. Bien, merci de nous avoir appelé, Pichou. Docteur Rivière, j'ai une question d'un auditeur qui dit son enfant de 3 mois ne prend plus le lait maternel. Et bon, parce que sa maman travaille, sûrement, elle doit aller travailler, donc elle laisse le biberon. Et quand elle revient après pour donner le lait maternel, l'enfant ne veut pas, ne veut plus.
Oui, ça se rencontre, c'est un cas qui se rencontre assez souvent. En fait, le lait maternel, c'est ce qu'il y a de meilleur pour les enfants. Alors, nous recommandons aux mamans de le donner le plus longtemps possible. Alors, si pour une raison ou une autre, la maman n'est pas en mesure de le faire, l'enfant, il a aussi des goûts, hein, à un moment donné. S'il s'habitue au lait de vache, maternisé, en ce moment, il peut refuser de prendre le lait maternel. Ça arrive. En ce moment-là, il faudrait donner à l'enfant un lait maternisé bien adapté, de façon à ce qu'il n'entre pas dans les carences, quoi.
Voilà, Madame Bibis, on nous appelle Dekananga. Bonjour, Madame.
Bonjour, messieurs les journalistes.
On vous écoute, Madame Bibis.
Ma préoccupation est ceci. J'aime poser une question à l'invité. Le parent qui te pousse, quelle sera la santé d'un bébé s'il a un parent, ou soit la maman ou bien le papa qui aille se coucher ailleurs avec une autre femme ou soit un homme? Quelle sera la santé de bébé? C'est ça ma préoccupation.
Bien, merci Madame Lydia. Madame Lydia, c'est Docteur Lydia.
Oui, je vous l'ai suivi. Bon, généralement, les mamans impute la malnutrition qui s'ensuit dans ce genre de situation à l'infidélité du père ou vice-versa.
Oui.
En réalité, les enfants subissent une sorte de maltraitance ou plutôt une négligence de la part de l'autre conjoint, quoi, qui est préoccupé par son problème de couple, néglige un peu la bonne prise en charge des enfants et s'enfuit de malnutrition. C'est de cette façon que nous expliquons cela scientifiquement.
Mais dans l'imaginaire populaire, lorsque un des partenaires court avec d'autres hommes ou femmes, l'enfant peut attraper une maladie, il est nommé sanga, quelque chose comme ça.
Oui, ben c'est ce qu'on dit, hein.
Mm-hmm.
Le sanga, pour nous, c'est une sorte de malnutrition due à la négligence des parents, même au point de vue affectif, hein. Non seulement la malnutrition, mais aussi une carence affective.
Bien. Et la question des auditeurs, le lait maternel n'est plus abondant. Et quand on donne les biberons à l'enfant, il refuse, hein, il veut absolument téter. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que le parent doit faire?
En ce cas-là, voilà, la mère a vraiment un problème. Il faudrait stimuler au maximum sa montée laiteuse.
Comment?
En prenant beaucoup de boissons chaudes, non pas seulement du thé rouge avec du sucre comme les mamans ont l'habitude de prendre, mais beaucoup de lait, de l'eau, du jus. En tout cas, ça stimule la montée laiteuse. Si le nourrisson ne veut prendre que le lait maternel, la maman doit s'arranger pour lui en fournir. Et si vraiment elle ne peut pas, peut-être qu'elle est malade, en ce moment-là, il faut introduire le lait maternisé. Il y en a, et puis le nourrisson finira bien par le prendre. Mais le lait maternel reste l'aliment idéal pour les nourrissons.
Bien, des questions de préoccupation à quelles jeunes adopter pour la bonne croissance du nourrisson. Nous recevons aujourd'hui Dr Ilia Moukar, pédiatre à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Vous voulez participer, composez le 081-890-6394.
c'est parce que Radio Capéiné le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Quelle hygiène adoptée pour la bonne croissance du nourrisson? Bertin, vous êtes à Kinshasa, hein? Bonjour.
Bonjour, la radio Capi.
On vous écoute, Bertin.
Pendant la saison sèche, il y a des maladies telles que les rhumes et la toux. Alors les visiteurs peuvent venir, ils sont atteints de cette maladie. Ils viennent maintenant pour voir les nouveau-nés. Comment pouvons-nous protéger les nouveau-nés? Ils vont le voir ou bien on va les cacher ou on sait comment c'est que les visiteurs peuvent nous proposer.
Très bien. Voilà, docteur Lidia, vous avez suivi pendant la saison sèche, voilà, il y a un bébé qui arrive dans une famille, les visiteurs arrivent, alors doit-on cacher le bébé ou pas?
Je pense que s'il s'avère que l'un des visiteurs présente la toux, le rhume, bon, est grippé, il faudrait éviter que ce visiteur soit en contact avec le bébé, qu'il ne soit pas dans la même salle, comme on le sait, la transmission du virus de la grippe se fait au travers de l'air. Alors, il faudrait éviter que ce visiteur-là et le bébé soient dans la même pièce, qu'ils puissent respirer le même air.
Voilà. Ah, oui. Il y a certaines mamans qui cachent même les bébés, qui veulent pas que les gens, elles veulent pas que les gens touchent à leurs petits enfants jusqu'à ce qu'il aura le vaccin.
Oui, également, ça c'est dans le cas, lorsque l'enfant n'est pas encore protégé, il faudrait, contre la tuberculose, comme la tuberculose aussi peut transmettre par l'air, il faudrait éviter que l'enfant soit en contact avec une tierce personne susceptible de lui transmettre cette maladie. C'est ça, et comme on ne sait pas aussi l'hygiène des mains des adultes, alors il faudrait éviter que les adultes, en manipulant l'enfant, le touchant, lui apportent une infection, comme on dit, manuportée, l'infection due au même sale.
Mmh. Inga nous appelle de Goma, bonjour.
Bonjour, c'est Inga Pater, la partie de Goma.
Bien, Inga, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Je voulais poser la question à l'invité, madame le docteur, en rapport à votre, avec la santé de l'enfant.
Oui. On vous écoute, là.
Oui. Oui, je voulais, parce que dans notre village, là où j'ai été né,
oui,
l'enfant, quand il était né, on le prenait, on le mettait dans l'eau des rivières pour dire que l'enfant doit le protéger de toute maladie qui aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et comment expliquer ce phénomène-là? Un enfant nouveau-né introduit dans l'eau des rivières trop froides afin que l'enfant puisse se protéger des maladies qui tuent. C'est ça ma question que je devrais poser à l'invité.
Inga, vous voulez dire que c'est une pratique qui est toujours courante dans votre village?
Oui.
Bien. Merci, docteur.
Oui, je pense que les gens de ce village-là, ils étaient déjà très avancés, parce que actuellement, étant donné que le bébé, en fait, quand il est encore dans le sein de sa mère, il baigne dans un milieu aqueux, dans l'eau, dans le placenta. Alors, le placenta n'est pas nuisible pour l'enfant, il est habitué. Et même actuellement, sous d'autres cieux, il y a des mamans qui préfèrent accoucher dans l'eau, sous l'eau. Alors c'est tout à fait normal que dans ce village-là, que l'on puisse mettre les enfants dans l'eau pratiquement pour les protéger. En tout cas, ce n'est pas nocif pour eux. Ce n'est pas nocif, ils le supportent très bien.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de danger dans cette pratique-là, docteur?
Non, si c'est bien fait, il n'y a pas de danger, puisque comme je le disais, il y a même des mamans qui préfèrent accoucher dans l'eau, pratiquement.
Et ça se passe où, des mamans qui accouchent dans l'eau, et c'est où et comment?
Il y a des salles appropriées pour ça. Je pense des piscines spécialisées, en tout cas, qui ont été aménagées pour ça, pour permettre aux mamans d'accoucher directement dans l'eau. Oui. Ce n'est pas nocif pour le nouveau-né. Mmh. Il continue en quelque sorte, c'est une sorte de prolongement du milieu naturel dans lequel il s'est toujours trouvé, et puis on va le faire sortir de là progressivement.
Bien. Il y a certains bébés, des mamans qui laissent par exemple les bébés pendant très longtemps avec ses couches ou les pampers, déjà le bébé a fait pipi ou popo. Alors comment on doit se faire on doit les changer combien de fois par jour et comment on doit se passer? Il y a même certains bébés qui ont des irritations, des rougeurs. Comment éviter tout cela?
Oui, vous avez déjà donné la réponse, hein. C'est en changeant le bébé le plus fréquemment possible, le plus régulièrement possible. Il appartient aux mamans d'être attentives, de savoir lorsque le bébé mouille, de le changer immédiatement. Pour ceux qui portent des pampers, il y a des pampers qui sont très absorbants et le bébé peut uriner 2-3 fois sans qu'il puisse être mouillé. Mais il y a aussi ceux qui utilisent des couches normales, là, il faut, à chaque fois que l'enfant urine, il faut les plier. Sinon, il y a prolifération des mycoses, il y a irritation, et c'est la nuit à la peau du bébé.
Et certaines couches sont laissées quelque part pendant toute la journée. Est-ce qu'il y a des dangers après pour la peau du bébé?
Bien sûr, nous sommes en train de parler des irritations. Généralement, cette région est colonisée par des mycoses. Il faudra en ce moment-là que, pour que toutes ces rougeurs terminent, que la maman consulte afin qu'on lui donne une crème anti-mycosique adaptée pour que ces irritations-là terminent.
Bien, merci Dr. Lydia Moukard. On rappelle que vous êtes pédiatre. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
À la prochaine, merci.